À Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question de Gérard de Nerval. Ça peut surprendre peut-être quelques personnes, parce que c'est un grand poète, mais malheureusement qui a terminé ses jours de façon tragique, en mettant fin à ses jours, à 46 ans. Il faut dire qu'il avait des troubles psychologiques à certains moments. Son génie poétique s'accompagnait de problèmes spéciaux. Mais ça ne l'a pas empêché d'être l'un des plus grands écrivains du 19e siècle. Et certains croient que vraiment, il est peut-être l'un des deux plus grands, peut-être même le plus grand aux yeux de certains. Je me souviens d'avoir lu, il y a bien des années, un ouvrage de Jean Steinman. Jean Steinman était un très grand spécialiste de la Bible, des prophètes de la Bible, etc. Il était reconnu, très très reconnu. Il était parti en Israël, en Palestine, faire un pèlerinage avec de nombreuses personnes. Ils étaient, je crois, 23 pèlerins. Et il est mort tragiquement dans les gorges de Petra, au sud de la mer Morte, et avec les 23 pèlerins dont il était le guide. Il est mort le 8 avril 1963, et j'espère vous faire une émission sur ce très très grand prêtre, un prêtre admirable. Il est mort au seuil de la Semaine Sainte. Et puis, quelques jours avant son départ pour la Terre Sainte, il avait terminé toute une série de conférences sur les prophètes, particulièrement Amos dans la Bible, etc. Puis, au moment de quitter Paris, il a remis un ouvrage à l'imprimeur, à Desclés de Brouwer, un ouvrage extrêmement intéressant. Ce sont des chroniques sur des écrivains. Et on peut dire que Jean Steinman, qui est surtout connu pour ses ouvrages sur la Bible, eh bien, dans cet ouvrage... Pardon, qui manifeste une culture exceptionnelle, eh bien, il vouait une vénération intense et profonde à Gérard de Nerval. Comme vous voyez, Gérard de Nerval, en dépit de sa mort, surtout à l'époque, on jugeait ça plus sévèrement qu'aujourd'hui, on comprenait moins les drames psychologiques des âmes, et alors, Gérard de Nerval a laissé dans le souvenir de Jean Steinman, ce prêtre admirable, des éléments qui lui ont permis d'écrire des choses qui vont m'inspirer. Je me permets, comme ça, de dédier cette émission à la mémoire de Gaëtan Giroir, que je regardais souvent à l'émission J.E., car je trouvais que cet extraordinaire pourfendeur, on peut dire, de tous ces mécréants qui nous assaillent de tous côtés pour essayer de nous arracher notre argent en faisant des choses extrêmement malhonnêtes, eh bien, ce Gaëtan Giroir était un homme d'une très grande qualité dans notre société, et je voudrais lui rendre hommage à ce père de famille qui malheureusement a sombré. D'ailleurs, dans un des beaux poèmes de Gérard de Nerval que nous apprenions quand nous étions jeunes, on voit le tragique de ces gens qui mettent fin à leur jour. J'en profite pour dire que mon fils, ce sera le 5e anniversaire de sa mort bientôt, n'a pas mis fin à ses jours. Ce n'est pas un suicidé, mon fils. Ça ne me gênerait pas de dire qu'il l'aurait été. Je n'ai rien, personnellement, contre les suicidés. C'est le suicide que je trouve pénible en soi. Mais les suicidés, comment peut-on comprendre ce qui les mène jusque-là? Et on voit dans ce poème de Gérard de Nerval que nous connaissions quand nous étions jeunes, on nous le faisait apprendre par cœur. Je vous en récite simplement le tout début. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte, et mon lutte constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Quand il dit « je suis le ténébreux », c'est qu'il est troublé intérieurement par des tas de problèmes. Le veuf, il est seul, l'inconsolé, tout. C'est pas nécessaire d'expliquer ça. Le prince d'Aquitaine, ben, c'est qu'il se croyait, étant donné qu'il s'appelait de Nerval, mais c'est son nom de plume, son vrai nom est autre chose. Il portait le nom de son père, en fait, quand il est né, la Brunie. Mais il s'est appelé de Nerval pour ressusciter un nom qu'il croyait être celui d'un châtelain du Périgord dont il descendait. Alors le prince d'Aquitaine, à la tour abolie, où il y avait des tours sur les armoiries de cet ancêtre prétendu, et puis la tour est abolie, il a tout perdu. Ma seule étoile, c'est l'amour de sa vie, une femme qui est morte. Eh bien, ma seule étoile est morte, et mon luth constellé porte le soleil noir. C'est le soleil noir qu'on retrouve dans une toile d'Albert Durer, dans son célèbre tableau « Mélancolia ». Porte le soleil noir de la mélancolie. Vous direz que c'est bien compliqué. Mais ce n'est pas si compliqué quand on analyse. C'est bouleversant parce que c'est le cri de toute beauté, d'une harmonie, d'une musicalité. C'est la perfection des vers. C'est un littérateur de très, très grande envergure. Je vous ai dit que c'était son pseudonyme, Gérard Labruni, devenu Gérard de Nerval. Mais il passe ses premières années dans le Valois, près de son grand-oncle Antoine Boucher, parce que le Valois, ben d'abord, c'est dans la région de Compiègne, au nord-est de Paris. Là, c'est pas loin de l'Arche de Jean Vanier. Son père ne s'en occupait pas tellement, il était médecin dans l'armée, puis sa mère avait accompagné son père dans une guerre, et puis elle est morte, elle est enterrée en Pologne. Et il se trouve, pour ainsi dire, presque orphelin, élevé par son grand-oncle Antoine Boucher, qui est un peu ésotériste, et alors il parcourt les forêts du Valois, Gérard de Nerval. Il écoute les récits légendaires de cette région. Comme il y en a beaucoup dans les régions, et dans cette époque, évidemment, il est né en 1808, c'est une époque où on aime bien parler des loups-garous, puis des feux follets, puis ici, ça existait au Québec. Hein. Puis il prend l'habitude de la rêverie, puis de bonne heure, bien, il voue un culte, donc, à la mémoire de sa mère, qu'il n'a pas connue. Alors, il s'adapte pourtant à la vie parisienne, et puis il va au collège, il a Théophile Gautier comme condisciple, puis il se montre un élève studieux. Et c'est un aimable jeune homme, les gens l'aiment bien. Il s'amuse, il joue volontiers au dandy, il écrit dans Petit Château de Bohème, en deux mots, ce qui résume sa jeunesse. Quel temps heureux, on donnait des bals, des soupers, des fêtes costumées, on jouait de vieilles comédies, nous étions jeunes, toujours gais, quelquefois riches. Alors, il n'y a aucune inquiétude véritable qui transparaît dans ses premières œuvres. Et puis, tout jeune, hein, à 18 ans, 20 ans, il traduit le Faust de Goethe, il connaît l'allemand. Hein. Il fait ça en 1828, quoi, et c'est terminé, il a 20 ans. Il a vraiment beaucoup de talent. C'est un garçon vraiment exceptionnel. Et il passe à travers mille tourments. Il rencontre cette Jenny Colomb à 28 ans. C'est cette chanteuse, cette comédienne qui va mourir et qui va lui faire écrire, n'est-ce pas, qu'il est veuf, l'inconsolé. Et puis, il a beau la poursuivre, il se déclare à elle, il touche un moment son cœur, mais elle sacrifie bientôt ce poète plus ou moins étrange. Elle préfère faire un mariage de raison, puis elle épouse un musicien, un flûtiste qui a un job sûr, là, il travaille à l'Opéra Comique. Et puis, la déception qu'il éprouve le bouleverse complètement. Et puis, mais un long travail intérieur commence à s'accomplir en lui. Alors, il la chasse de son horizon, puis Jenny demeure dans son souvenir comme une image idéale. Et là, la lecture du second Faust, là, qu'il traduit en 1840 cette fois-là, ça entretient cette espèce de mysticisme amoureux. Il y a chez lui beaucoup, beaucoup de mystique. C'est un chrétien, au fond, il a la foi dans un certain sens, il est tourmenté dans sa foi, et il charrie toujours ça dans son drame intérieur, comme font beaucoup de gens. Hein. Et son exaltation aboutit en 1841 à une crise très grave. Il est soigné pour troubles mentaux dans une maison de santé, mais il est momentanément guéri, heureusement, puis il apprend la mort de cette jeune femme qu'il aime tellement, qui survient en 1842. Son rêve s'épanouit désormais en toute liberté. Et là, le souvenir de cette jeune fille s'estompe petit à petit. Et à l'image de cette créature, de cette beauté, de cette jeune femme, se substitue la vision rayonnante de ce qu'il appelle un être céleste qui se mêle un peu à la Sainte Vierge. Il fait un voyage dans les pays d'Orient, il va visiter toutes sortes de choses extraordinaires, il poursuit sa chimère, il y a des aspirations religieuses qui l'amènent à écrire des textes admirables sur le sermon des Béatitudes de notre Seigneur, mais il fait des recherches ésotériques, il mêle ça un peu comme des jeunes aujourd'hui qui ont la foi chrétienne, et il est un précurseur, on pourrait dire, de beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont tout mêlés dans des recherches ésotériques. Mais il a beaucoup de respect pour un dénommé Cazotte qui va mourir sur l'échafaud en 1792, avant sa naissance à lui. Mais il admire beaucoup, admire ses écrits. Et puis, il s'intéresse aussi à Recife de la Bretonne, que vous connaissez peut-être, cet écrivain, ce romancier qui a écrit Le paysan perverti, etc. Ça l'impressionne, ça le touche. Et ce sont pour lui des génies fraternels. Et puis là, il y a une nouvelle crise qui survient en 1851. Il va mourir quelques années plus tard à peine. Et petit à petit, il est guetté par la folie. Et malheureusement, il a des périodes de délire. Il est soigné par un docteur Blanche à Passy. Il voyage un peu en Allemagne. Et puis finalement, il traîne une existence vraiment misérable. Puis le 25 janvier 1855... on le découvre, n'est-ce pas, à l'aube, pendu dans une ruelle de Paris. C'est vraiment quelque chose d'absolument pénible. Or, je vous ai dit que Jean Steinman avait écrit sur lui un ouvrage absolument merveilleux, où il raconte justement que si Nerval, qui est né en 1808, est fils d'un petit bourgeois, et qui n'a pas connu sa mère qui est morte en Poméranie, qui était enterrée en Pologne durant les campagnes de Napoléon, alors qu'elle accompagnait son mari médecin, puis qu'il est élevé par son vieil oncle, il garde le souvenir ineffaçable d'une jeunesse merveilleuse dans le Valois, et puis de ses fêtes enchantées, de ses légendes, et puis il abandonne tout ça pour aller à Paris, mais il devient un petit peu rond de cuir à un moment donné, et c'est pour lui tragique. Et il y a ses premières gloires avec force, tout ça, et sa mort qui surgit, n'est-ce pas, de façon tragique, c'est celle qui survient à la suite de ses rencontres avec le monde surnaturel. Et on se demande s'il n'y a pas dans ce suicide, dans cette façon de se pendre, le désir d'aller rejoindre de l'autre côté sa mère et de rejoindre la Sainte Vierge aussi, et peut-être aussi cette jeune fille qu'il aimait tellement. Quand il se pend, n'est-ce pas, près du trottoir de l'impasse de la vieille lanterne, sous une neige épaisse, alors qu'il fait 18 sous zéro, et puis 18 degrés, oui, sous zéro, il fait très très froid, il n'a pas de paletot. Il est réduit d'ailleurs à la pauvreté la plus abjecte, et c'est un être douloureux, mais douloureux au possible, mais en même temps, un homme qui a écrit des choses religieuses, parfois très saisissantes. Gérard de Nerval, quand il était jeune, je vous ai dit, a été élevé par son vieil oncle, qui lui a farci la tête de toutes sortes de bouquins d'illuminés, comme on en trouve aujourd'hui dans nos librairies. Regardez dans les librairies, il y a très peu d'ouvrages catholiques. C'est surtout des bouquins, je regrette de le dire, d'illuminés. Et c'est triste. C'est ce que disent souvent nos jeunes aujourd'hui, et même les moins jeunes. Alors, il lit Swedenborg, Saint-Martin. C'est très à la mode aujourd'hui, ces choses-là. Et puis, il est enchanté aussi par les romantiques allemands. Pas les génies ténébreux et mystiques, là, Hölderlin ou Novalis, mais plutôt Heine, Hoffmann, puis Holland. Puis, à les lire, eh bien, Gérard de Nerval découvre un climat de sa jeunesse. Il adore leur poésie tendre et ironique. Il est fasciné par le sens du mystère puis de la musique. Cette espèce de musique incertaine qu'ont ces auteurs. Cette musique qui est très enchanteresse et qui fait rêver. Dans son adolescence, il a chanté de vieilles complaintes aussi belles que leurs ballades. Mais ses premiers vers restent médiocres, puis il subit du dehors l'influence de Hoffmann, puis il écrit la sonate du diable. Vous voyez le genre, il est pris par toutes sortes de choses de ce genre. La métempsychose, il est pris aussi par la métempsychose, ça veut dire quoi, la réincarnation? Et puis, il écrit la nuit du 31 décembre. On va en vivre une, la nuit du 31 décembre, quand on va passer à l'an 2000. Hein? Et puis, Gérard de Nerval apparaît comme une espèce de précurseur d'Edgar Poe puis de Baudelaire, avec cette différence qui se prend pas tout à fait au sérieux. Et dans ses pastiches allemands, il s'exerce puis il s'amuse. Il s'amuse, mais ça peut être très grave. Il écrit des choses très, très, très délicates. J'hésite à vous le lire, mais je vous le lis quand même parce que ça démontre jusqu'à quel point peut aller l'âme d'un jeune quand il est pris et saisi comme ça par une mauvaise conduite de son oncle et puis les influences littéraires comme on en subit aujourd'hui. Alors, il écrit un très long poème, oh mon Dieu, c'est cinq sonnets qui s'enchaînent. Je vous lis simplement une partie du premier sonnet. Quand le Seigneur, levant au ciel ses maigres bras, sous les arbres sacrés, comme font les poètes, se fit longtemps perdu dans ses douleurs muettes et se jugea trahi par des amis ingrats, ses apôtres, il se tourna vers ceux qui l'attendaient en bas, rêvant d'être des rois, des sages, des prophètes, mais engourdi, perdu dans le sommeil des bêtes, et se prit à crier, non, Dieu n'existe pas. Au fond, le Dieu que vous cherchez, en d'autres termes, pour être des rois, des prophètes, des sages, des hommes de pouvoir, ce Dieu n'existe pas. C'est ça que ça veut dire, au fond. Alors, il dormait. Mes amis, savez-vous la nouvelle? J'ai touché de mon front à la voûte éternelle. Je suis sanglant, brisé, souffrant pour bien des jours. Frère, je vous trompais. Abîme, abîme, abîme. Le Dieu manque à l'autel où je suis la victime. Dieu n'est pas, Dieu n'est plus. Mais il dormait toujours. En somme, il essaie de faire comprendre aux gens que le Dieu auquel ils s'attendent n'existe pas. Il écrit aussi, c'est toujours dans les chimères, ça, vers dorés, des vers dorés. Homme libre penseur, te crois-tu seul pensant dans ce monde où la vie éclate en toutes choses? En d'autres termes, vous autres qui êtes les libres penseurs, qui dites que Dieu n'existe pas, etc., etc., est-ce que vous croyez que vous êtes le seul à penser, que vous pensez par vous-même, quoi, que personne ne vous a pensé, en d'autres termes? Homme libre penseur, te crois-tu seul pensant dans ce monde où la vie éclate en toutes choses? Des forces que tu tiens, ta liberté dispose, mais de tous tes conseils, l'univers est absent. Respecte dans la bête un esprit agissant. Chaque fleur est une âme à la nature éclose. Un mystère d'amour dans le métal repose. Tout est sensible et tout sur ton être est puissant. Crains dans le mur aveugle un regard qui t'épie. À la matière même un verbe est attaché. Ne la fais pas servir à quelque usage impie. En somme, respecte toute la création, quoi. Parce que dans la création, Dieu est là. Dieu est là, pas nécessairement dans le panthéisme, là, que toute la matière est Dieu, mais Dieu est présent. Et il termine en disant, souvent, dans l'être obscur, habite un Dieu caché, avec un D majuscule. Et comme un œil naissant couvert par ses paupières, un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres. Il ressent un peu comme, Thiers de Chardin, mais aussi saint Paul. Hein? Et d'ailleurs, la Bible, dans la beauté des choses et la beauté de la création, la présence de Dieu. Alors, il écrit toutes sortes de choses, le monstre vert, la main enchantée, et la bohème galante, puis Paris, dont il est amoureux. C'est tout, c'est une poésie fantastique. Hein? Mais il n'ose situer l'intrigue de ses contes dans le présent, puis se réfugie dans le passé. Et il est un poète charmant, nostalgique. Gérard de Nerval est préoccupé par, on pourrait dire, l'envers de la vie. Il a le sens des choses de l'âme, du mystère, de l'étrange. Je dirais du rêve, comme source de la poésie. Mais c'est emparé toujours d'une ironie subtile, qui amortit, qui amenuise la sauvagerie de certaines de ces choses qu'il écrit. Et la seconde étape, bien, est marquée très tard pour Gérard par celle des Illuminés. Or, les Illuminés, c'est une œuvre composée de la maturité de Gérard. C'est une, en partie écrite avant le voyage en Orient. Et le reste, au retour, alors Gérard de Nerval a 40 ans à ce moment-là. Gérard de Nerval s'intéresse aux théories étranges, parfois déconcertantes, là, de Cazotte, dont je vous ai parlé, de Récit de la Bretonne, puis de Quintus Auclair. Il a, il fait un jugement moral juste et sévère porté sur Récit de la Bretonne, des réflexions qui provoquent chez Gérard de Nerval aussi, il parle de ça, c'est les réflexions qu'il a quand il voit le grand monument de Catherine de Médicis, puis la vanité des choses. L'admiration qu'il éprouve aussi pour le courage et la foi religieuse de Cazotte, ça l'impressionne beaucoup, car il est toujours touché par la foi religieuse. Et ce sont les indices d'une crise qui va devenir plus tard. Il se penche il voit son propre visage finalement, les délires, les folies, les rêves de sa jeunesse évanouis. Et puis, quand il parle de Quintus Auclair, ça, il fait une profession de foi religieuse qui est magnifique. Ça se termine par le repentir et la conversion. Il écrit ceci, mettons. Jésus commence son premier discours, suivi, en disant « Heureux les pauvres d'esprit ». Il n'entend pas ici ceux qui en manquent, ni les imbéciles, mais ceux qui embrassent la pauvreté volontaire et le mépris des choses terrestres. Parce que, dit-il, le règne des cieux est à eux. Et cela, dans la prédiction qu'il leur faisait du renouvellement du monde. Alors, il pense toujours au renouvellement du monde avec Jésus. Jésus dit aussi, « Heureux ceux qui sont doux, parce qu'ils posséderont la terre, c'est-à-dire la terre qui va être renouvelée par les chrétiens, quoi. Heureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés dans le renouvellement de toutes choses. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, parce qu'ils seront consolés dans le jugement qui allait avoir lieu. » Et quant au précepte de ne point résister au mal, là, il hésite, puis tendre la joue gauche et recevoir un soufflet. Il prétend que ça peut que encourager les méchants à abuser des pauvres malheureux. Alors, il a des problèmes, mais il croit. Jusqu'à un certain point, on ne le sait pas au juste, mais c'est toujours la douleur de celui qui arrive difficilement à croire. Ses œuvres sont publiées dans deux volumes de plus de 1500 pages, donc plus de 3000 pages, à la Pléiade, deux beaux livres verts. Et le texte a été établi, présenté et annoté par Albert Béguin, qui n'est pas n'importe qui, et qui écrit d'ailleurs, fait une introduction absolument superbe, où il dit au début de sa préface, « Longtemps confondu dans la petite troupe des romantiques mineurs, Gérard de Nerval s'en est détaché vers la fin du siècle dernier pour devenir peu à peu ce précurseur, aventuré 100 ans plus tôt sur les chemins de la poésie moderne. » Alors les symbolistes s'en sont plutôt emparés, puis ensuite les romantiques, les surréalistes, etc. Tout le monde se l'arrache, on peut dire. Mais ce que je voudrais vous lire, surtout, c'est dans le deuxième tome de la Pléiade, là, à la page, 1193 et 1194, des choses qui vont vous plaire beaucoup. Les auditeurs de Radio Ville-Marie seront, je pense, bien comblés. Il dit la première leçon qui doit vous être donnée est de vous demander qui vous êtes. Et quand vous voyez que tout a un but, si vous pensez que c'est sans but que vous êtes venu sur la terre, bien pensez, le soleil est fait pour la lune, il darde sur elle ses rayons, stimule par eux ce qu'il y a en elle de lumineux, et ainsi elle nous éclaire. Il dit plus loin, tous les astres sont faits les uns pour les autres. Tous reçoivent les uns des autres, et dans une contrariété de mouvement, formant une harmonie universelle, ils entretiennent partout le mouvement et la vie. Quand tout a un but dans la nature, N'est-il pas insensé de penser que le séjour de l'homme sur la terre soit sans but? Puisque le mal n'est pas l'ouvrage du principe, c'est-à-dire de Dieu, qu'ainsi il n'est inhérent à aucun être, le mal, et puisque nous sentons l'ardeur du bien, bien toute notre tâche sur la terre doit être notre régénération, et si le mal nous a éloignés du principe de Dieu, quoi, qui ne peut l'admettre en lui, tout notre but doit être, par cette régénération, notre réunion à notre principe qui est Dieu. Telle est toute la tâche religieuse que nous avons à remplir sur la terre. Alors, quand les illuminés, ce texte est paru, dont je viens de vous lire des extraits, Gérard de Nerval est prêt au chef-d'œuvre, et puis, il y aura Aurélia, qui date de 1854-1855, hein, veille de sa mort. Aurélia, c'est un chant du ciel, c'est le triomphe de la rédemption, c'est l'alléluia d'une âme sauvée. Gérard de Nerval se réfère à Dante, mais à celui du purgatoire, mais du paradis, hein, pas celui de l'enfer. Car Dante a parlé de l'enfer, du purgatoire et du paradis. Hein. Purgatoire effrayant, certes, et authentique, hein, les déambulations nocturnes à travers les ruelles sordides qui entourent les halles, à Paris, là, les larmes de Notre-Dame des Victoires, la maison de santé du docteur Blanche, où il est obligé d'être traité de temps en temps, avec l'isolement ou le contact des autres aliénés. Alors, il décrit le purgatoire qu'il vit. La conscience de la folie aussi, c'est une terrible chose. Ça, il est conscient qu'il va devenir fou, et c'est un purgatoire épouvantable, une souffrance terrible. Mais si Gérard traverse l'enfer, c'est sans connivence pour le rire de Satan, pas du tout, ça ne l'intéresse pas. Son unique souffrance morale, c'est le désespoir suscité par ses remords. Il a des remords, il regrette d'avoir vécu en païen. Puis il entre en communion mystique avec les âmes défuntes, là, puis chère, sa mère. Et il y retrouve surtout Marie et le Christ. Il se sent pardonné. Et certes, Gérard de Nerval ne se fie pas complètement à ses rêves. Hein. Vivant, il le sait, aux confins de la folie, peut-être le jouet d'illusion, mais il sait bien aussi que, pour lui, le monde s'est entrouvert, fêlé sur le ciel. Il a retrouvé la foi et la prière, et en terminant, il avoue juger plus sainement, c'est ce qu'il écrit, juger plus sainement le monde d'illusions où j'avais quelque temps vécu. Toutefois, je me sens heureux des convictions que j'ai acquises. Et c'est la foi chrétienne. Et la certitude du pardon de Dieu, du pardon divin. Il dit ici, il écrit lui-même ici, je n'écoute pas la voix d'un songe, mais la promesse sacrée de Dieu. C'est ce qu'il écrit à son médecin, le docteur Blanche, qui le soigne pour sa folie. Ce qui n'est pas une illusion non plus, c'est le génie manifesté par cette œuvre, dans un sens unique dans la littérature de langue française. Unique par son extrême pureté. C'est un homme pur que Gérard de Nerval, au fond. J'ai même ici une très belle médaille frappée en son honneur. Je vis avec. Parce que cet homme troublé me saisit beaucoup, parce que j'ai eu un fils troublé aussi. Et les gens qui souffrent dans leur cerveau, dans leur âme, ça me touche toujours beaucoup. Je trouve que c'est une des plus grandes souffrances. C'est bien pire, peut-être, que la maladie du corps. Ça doit être épouvantable. Et il y a une limpidité d'une prose de cristal chez lui. C'est la magie d'une langue. C'est comme de la musique. La poésie la plus fine, la plus délicate. C'est le chant de ce poème dont je suis... Ce chant du désespéré que je vous ai lu tout à l'heure, hein, qui est tellement terrible. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé. Par ce message suprême, quoi, quelques mois avant la mort, Gérard de Nerval ressuscite le poème authentiquement chrétien, au fond. Alors que des générations d'étudiants à l'université comme au collège s'imaginent encore que l'enseignement de leurs professeurs est véridique quand ils leur disent que les grandes pages religieuses du romantisme nous viennent de la plume plus ou moins verbeuse de Lamartine ou bien de certaines platitudes de Musset. Musset, que Baudelaire appelait le croque-mort élégiaque. Voici que peu après son chant d'espérance et puis le hosanna de la rédemption, Gérard se suicide. Je vous le rappelle, ce pan à l'aube du 26 janvier, dans une impasse à Paris, près du Châtelet, sous la neige, alors qu'il fait moins 18 degrés. Dans Aurélia, il a écrit des choses tellement belles, je vous lis un passage. En tournant la barrière de Clichy, je fus témoin d'une dispute. J'essayais de séparer les combattants, mais je n'y pus réussir. Désespéré, je me dirigeais en pleurant vers Notre-Dame de Lorette, qui est une église, où j'allais me jeter au pied de l'autel de la Vierge, demandant pardon pour mes fautes. Quelque chose en moi me disait, la Vierge est morte et tes prières sont inutiles. C'est toujours, hein, on a toujours ça au fond de notre cœur, des tentations de, qui viennent du démon, au fond, qui nous parle à l'oreille, hein. Il dit, j'allais me mettre à genoux aux dernières places du cœur, et je fis glisser de mon doigt une bague d'argent dont le chaton gravé portait ces trois mots arabes, Allah, Mohamed, Ali. Aussitôt, plusieurs bougies s'allumèrent dans le cœur, et l'on commença un office auquel je tentai de m'unir en esprit. Il rêve, hein? Quand on en fut à l'Ave Maria, le prêtre s'interrompit au milieu de l'oraison et recommença sept fois sans que je puisse retrouver dans ma mémoire les paroles suivantes. On termina ensuite la prière et le prêtre fit un discours qui me semblait faire allusion à moi seul. Quand tout fut éteint, je me levai et je sortis, me dirigeant vers les Champs-Élysées. Arrivé sur la place de la Concorde, ma pensée était de me détruire. À plusieurs reprises, je me dirigeais vers la Seine, mais quelque chose m'empêchait d'accomplir mon dessein. C'est une espèce de grand rêve qu'il écrit. On voit qu'il est habité par toutes sortes d'idées. Les étoiles brillaient dans le firmament. Tout à coup, il me sembla qu'elles venaient de s'éteindre, à la fois comme les bougies que j'avais vues à l'église. Je crus que les temps étaient accomplis, que nous touchions à la fin du monde annoncée dans l'Apocalypse de Saint Jean. Je croyais voir un soleil noir dans le ciel désert et un globe rouge de sang au-dessus des Tuileries. Je me dis, la nuit éternelle commence et elle va être terrible. Que va-t-il arriver quand les hommes s'apercevront qu'il n'y a plus de soleil? Je revins par la rue Saint-Honoré et je plaignais les paysans attardés que je rencontrais. Alors, la disparition du soleil, on parle de ça. Alors, mon Dieu, les catastrophes avec l'an 2000. Ah, ne vous laissez pas avoir avec tout ça. Il écrit ensuite un peu plus loin, « Ô terreur, voilà l'éternelle distinction du bon et du mauvais. Mon âme est-elle la molécule indestructible, le globule qu'un peu d'air gonfle, mais qui retrouve sa place dans la nature, ou se vide même, image du néant qui disparaît dans l'immensité? Est-ce qu'en somme, il n'est rien, et que tout est rien, ou s'il est quelque chose? » Il dit, « Serait-elle encore la parcelle fatale destinée à subir, sous toutes ces transformations, les vengeances des êtres puissants? » Alors il a peur des condamnations éternelles. « Je me vis ainsi amené à me demander compte de ma vie. En me prouvant que j'étais bon, je me prouvais que j'avais dû l'être toujours, et cette pensée me rassura, mais ne m'ôta pas la crainte d'être à jamais classé parmi les malheureux. Je me sentais plongé dans une eau froide, et une eau plus froide encore ruisselait sur mon front. Je reportais ma pensée à l'éternelle Isis, la mère et l'épouse sacrée. Hein? Toutes mes aspirations, toutes mes prières se confondaient dans ce nom magique. Je me sentais revivre en elle, et parfois, écoutez bien, elle m'apparaissait sous la figure de la Vénus antique, parfois aussi sous les traits de la Vierge des chrétiens. La nuit me ramena plus distinctement cette apparition chérie. Elle me dit, la Vierge, l'épreuve à laquelle tu étais soumis est venue à son terme. Ces escaliers sans nombre que tu te fatiguais à descendre ou à gravir étaient les liens même des anciennes illusions qui embarrassaient ta pensée. Et maintenant, rappelle-toi le jour où tu as imploré la Vierge Sainte, et où la croyant morte, le délire s'est emparé de ton esprit. Oh, il fallait que ton vœu lui fût porté par une âme sainte et dégagé des liens de la terre. Celle-là s'est rencontrée près de toi et c'est pourquoi il m'est permis à moi-même de venir et de t'encourager. Il reçoit les encouragements de la Sainte Vierge grâce aux prières d'une âme pure. Il termine en disant « La joie que ce rêve répandit dans mon esprit me procura un réveil délicieux. Le jour commençait à poindre. Je voulus avoir un signe matériel de l'apparition qui m'avait consolé. Et j'écrivis sur le mur ces mots « Tu m'as visité cette nuit ». En somme, Gérard de Nerval pénètre dès l'enfance dans le monde enchanté de l'amour. Il peint une jeune fille qu'il appelle Sylvie dans des textes. Et s'il reprend pied sur terre, c'est pour recommencer sa quête insatiable de la pureté, de l'extase. Alors il passe de désir d'une jeune fille à une grande inspiration vers la Sainte Vierge. Et à l'ascétisme désespéré de certains, Gérard de Nerval oppose une sorte de joie, une joie diaphane dans sa semi-folie, et le pouvoir de retrouver partout les traces et les rayons de l'étoile délicieuse qui l'éclaire et qui est la Vierge. Ces amours différentes et imaginaires seront comme les pressentiments successifs d'un bonheur inaccessible devant la mort, et cette mort, loin d'en avoir peur, il l'aimera, il l'appellera, il y reconnaîtra l'aurore de sa rédemption. Et ce sera pour lui la mort le havre de la pureté du paradis, et en somme la cause du geste mystérieux pour lequel il s'est tué le 26 janvier 1855 à 46 ans, est à rechercher à la fois dans la fragilité de sa guérison de la folie, puis dans le goût de la mort, qu'avait développé en lui l'habitude du rêve. Son mal l'a ressaisi, comme Vincent Van Gogh, hein? Et comme malheureusement ce pauvre Gaëtan. Pauvre lui, Gaëtan Giroir. Que c'est triste, hein? C'est pourquoi l'Église a prié sur sa tombe. Et comme le dit Albert Béguin, ce catholique, rien n'interdit de penser à Gérard de Nerval comme à quelqu'un de sauvé. La même chose pour Van Gogh et la même chose pour Gaëtan Giroir et tous ceux que l'on peut connaître et qui, croyant, étant bons, défenseurs des choses bonnes au fond de leur cœur, ont mis fin à leur jour de façon tragique. Il semble bien qu'autre chose encore que la maladie, où l'attitude vis-à-vis de la mort est gouvernée et orientée le destin de ce grand poète qu'est Gérard de Nerval. Gérard a dû son salut, finalement, on pourrait dire, aux plus beaux aspects de sa poésie et à son cœur, au fond, très pur. Dans certains de ses livres, dans certaines de ses œuvres, Gérard de Nerval est habité par l'abîme, mais aussi par l'espoir, par l'espérance, par le repentir. Et les tentations n'ont plus d'autre rôle que de faire souffrir Gérard, de lui mériter le pardon de son ami céleste. Et l'œuvre entière de Gérard de Nerval s'inscrit sous le signe d'une pureté. Une pureté qui est presque dépourvue de sensualité et de toute complicité avec la partie basse et méchante de l'âme. Mais la souffrance s'y dépouille de toute atrocité. On peut dire que le péché sert de prétexte au pardon. La victoire est si radieuse que toutes les taches ont disparu. La vie n'a plus de poids ni de peur. La nuit, chez Gérard de Nerval, devient blanche et légère. Tout se résout en un chant céleste comme celui démonial. Et Gérard de Nerval est un poète béni. Je ne crois pas que ce soit un poète maudit. Il est le frère de la souffrance. Il témoigne de cette vérité que nous ne sommes pas au monde, que la vraie vie est absente, tant que nous n'avons pas compris que l'union à Dieu est la seule vérité. Et face à la foule des poètes comblés, qui sont couverts de prix, Il est le membre souffrant du corps mystique des poètes traqués que ce Gérard de Nerval. Peut-être que la joie de Gérard de Nerval, presque douloureuse d'impatience, se situe là, dans cette âme, l'âme chrétienne, qui craint tout en espérant, mais n'accepte jamais devant Dieu la paralysie de la peur. C'est une œuvre chrétienne, finalement, somme toute. Elle est étrange, elle est curieuse, mais elle peut témoigner en faveur des vérités divines dans un monde bouleversé par la négation de l'homme. Gérard de Nerval a écrit d'ailleurs, on le voit dans son visage, il y a une médaille de lui qui a été faite quand il était jeune. Il a un regard intelligent, un peu inquiet, bon, humble. Il n'y a rien de prétentieux chez lui, hein. Il n'a jamais pris les attitudes du héros, comme dit Albert Béguin. C'est qu'il était naturellement héroïque et que, selon toute probabilité, il ne se douta jamais que son héroïsme pût être admirable. Il n'en demandait pas tant, hein. Gérard de Nerval demandait des choses très accessibles, de rester lucide quand, de toutes parts, l'assaillait l'ombre. Gérard de Nerval avait tendance au syncrétisme, mais il a toujours éprouvé le désir de rencontrer au moment la foi de son baptême. Il n'est peut-être pas revenu vraiment à l'Église, mais il a renié les tentations de syncrétisme, les tentations d'ésotérisme, etc. Il est demeuré dans une espèce d'irrésolution, nous dit Albert Béguin. Et il a écrit un beau poème sur Notre-Dame de Paris que je vous lis pour vous faire penser à le temps qui réduit tout au néant et seul reste finalement notre union à Dieu. L'éternité de notre être créée à l'image de Dieu. Écoutez bien ce qu'il écrit sur Notre-Dame de Paris. On chante souvent Notre-Dame de Paris ces jours-ci, comme vous savez. Notre-Dame est bien vieille, écrit-il. Notre-Dame est bien vieille. On la verra peut-être enterrer cependant Paris qu'elle a vu naître. Mais dans quelques mille ans, le temps fera broncher, comme un loup fait un bœuf, cette carcasse lourde, tordra ses nerfs de fer et puis d'une dent sourde rongera tristement ses vieux os de rocher. En somme, la cathédrale, un bon jour, va s'écraser. Il dit bien des hommes de tous les pays de la terre viendront pour contempler cette ruine austère, rêveurs et relisant le livre de Victor Hugo. Alors ils croiront voir la vieille basilique, tout ainsi qu'elle était, puissante et magnifique, se lever devant eux comme l'ombre d'un mort. Mais il a écrit des belles choses sur son carnet. L'Écriture, dit-il, la Bible, dit qu'un repentir suffit pour être sauvé. Mais il faut qu'il soit sincère. Et si l'événement qui vous frappe empêche se repentir, et si l'on vous met en état de fièvre, de folie, si l'on vous bouche les portes de la rédemption, il pose la question, hein, et il est angoissé devant ça. Et il dit au sujet de l'alcool, les bouteilles que tu vides, tu les remplis de ton esprit. Un peu plus loin, il dit, le règne de Dieu est passé. Il va renaître. Le Christ, c'est le second amour. Et j'aime bien quand il écrit, « Le Père qui produit au monde une race malsaine et misérable renaît dans ces malheureux qu'il est forcé d'assister. En somme, mettons au monde des enfants que l'on élève comme du monde. Autrement, on sera pris d'un poids épouvantable. Il dit, il y a toujours quelqu'un au-dessus de vous, quand ce ne serait que votre mère. Il écrit aussi, nous sommes tous parents de Dieu, et la terre a besoin qu'aucun de nous ne souffre, car ce sont les imprécations des malheureux qui s'amassent et causent les désastres. Il dit aussi, au sujet du suicide, en vérité, le monde où nous vivons est un tripot et un mauvais lieu, et je suis honteux en songeant que Dieu m'y voit. Le Christ dont la parole fut égalité ne choisit ses apôtres ni parmi les puissants, ni parmi les riches, écrit-il, ni parmi les forts, il les prit même simples d'esprit et les illumina de son souffle pour montrer que si l'intelligence est maîtresse du monde, c'est comme provenant du ciel. C'est très beau. Il en a comme ça des choses magnifiques. Il n'y a rien de si grand que l'homme ne puisse trouver petit dès qu'il l'a mesuré. Rien de si sublime qu'il ne puisse railler dès qu'il l'a compris. Mais il ne peut mesurer l'infini et Dieu ne se laisse pas comprendre. Mais il se laisse aimer.